Bonjour à tous et bienvenue dans le cycle des petites conférences sur la littérature russe. Notre deuxième leçon sur le roman russe est consacrée à l'un des géants du genre, Léon Tolstoï, le célèbre auteur des récits de Sébastopol, de l'immense fresque historique et familiale Guerre et Paix, du roman psychologique par excellence Anna Karénine, mais aussi de nouvelles, récits et essais que le titan de Yasna Paliana, comme l'a appelé Nabokov dans Le Don, continue à décrire jusqu'à son ultime fuite, hors de la littérature, des arts et de la vie, en 1910. Je dirai d'abord quelques mots sur le romanesque chez Tolstoï, puis nous verrons comment l'écrivain aborde la peinture dite psychologique des personnages de Guerre et Paix. En 1868, l'année même où Melchior de Voguet publie en France le roman russe, Léon Tolstoï édite quelques mots à propos du livre Guerre et Paix, une notice explicative destinée au lecteur de l'œuvre qui a vu le jour dans la revue Le Messager russe. Répondant aux critiques qui s'interrogent sur le genre de son œuvre, Sachinine, il écrit « Qu'est-ce que Guerre et Paix ? Ce n'est pas un roman, c'est encore moins un poème et encore moins une chronique historique. Guerre et Paix est précisément ce que l'auteur a voulu et réussi à exprimer dans la forme que cela a pris. » Cette déclaration mérite que l'on s'y arrête, car il semble fort étonnant, d'une part, que Guerre et Paix puisse ne pas être un roman, mais encore, d'autre part, que l'on ait pu avoir l'idée d'identifier ce texte en prose de plus de 1200 pages comme étant un poème. En réalité, Tolstoï lui-même fournit une explication. Car il rappelle que, je cite, « l'histoire de la littérature russe depuis Pouchkine » non seulement fournit pléthore d'exemples d'œuvres qui se sont écartées des formes européennes, mais encore n'en donne aucun d'une œuvre qui s'y fut pliée. Fin de citation. Effectivement, si l'on trouve sous la plume de Pouchkine un roman en vers, Eugène Onéguine, on découvre aussi, non sans étonnement, que Les âmes mortes de Gogol, œuvre en prose fondatrice pour la littérature russe, est, selon l'auteur lui-même, un poème, poema. Car les auteurs russes, lecteurs avides des fleurons littéraires occidentaux et désireux de créer leur littérature nationale, se formalisent en réalité très peu avec les écoles, les genres et les règles formelles. Dès le début du XIXe, ils mélangent les styles et les genres et préfèrent créer du romanesque par l'entremise d'un rapport privilégié avec leurs lecteurs, un rapport qui est souvent fondé sur l'ironie. Mais si Tolstoï fait à son tour un clin d'œil à cette spécificité du genre en terrain russe, il profite aussi de sa notice pour souligner l'originalité de sa démarche. Une démarche fondée sur une conception particulière de l'histoire et du rôle dans l'histoire des grands hommes. Le 3 janvier 1863, alors que l'écriture d'un roman sur le décembrisme, bientôt métamorphosé en roman sur les origines du phénomène, sur 1812 en particulier, avance bon train, Tolstoï écrit dans son journal, je cite, « Le genre épique seul s'impose à moi comme naturel. » Ce « genre » au sens de filiation ici est ce qui lie Guerre et Paix avec la veine historique du roman russe, celle dont l'impulsion avait été donnée par la fille du capitaine de Pouchkine, qui avait mis en scène Pougatchev et sa révolte. Mais c'est aussi ce qui donne à l'œuvre de Tolstoï son envergure quasi homérique. Sur les champs de bataille comme dans les salles de bal, les personnages qui évoluent sur les pages de Guerre et Paix deviennent sous la plume de Tolstoï bien plus que des types. Observés à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, ils acquièrent une épaisseur psychologique extrêmement convaincante grâce à la description minutieuse de la psyché humaine que le narrateur projette sur ses héros et qui prend corps précisément dans l'écriture tolstoïenne. Car Guerre et Paix est un roman de la chair. Et paradoxalement, c'est bien une chair exposée, sensuelle, mise à nu, qui porte la marque profonde de l'expérience existentielle dont les personnages tolstoïens sont faits dépositaires. Éloignés des lecteurs et comme étrangers à eux-mêmes, défamiliarisés, pour reprendre le nom de ce procédé que Boris Eichenbaum a mis en lumière chez Tolstoï, les hommes et les femmes qui traversent l'épopée sont des caractères dont les plaisirs comme les souffrances viennent de la chair, que ce soit par l'entremise d'un trop grand abrutissement matériel ou la distance trop grande entre le corps et l'esprit. Pierre Bezoukhov, qui veut connaître les motivations des hommes et trouver sa place dans le monde, rencontre, alors qu'il est fait prisonnier, un paysan qui, pour un temps du moins, mettra fin à toutes ses angoisses, Platon Karataïev. Porteur d'une sagesse terre à terre, qui n'a ni commencement ni fin, qui ne connaît pas la réflexion ni le doute, et qui suit les lois de la nature, Platon est un modèle de russité qui incarne l'idéal de vie authentique vers lequel tend l'homme mondain épuisé par le divertissement. Cependant, tout en étant profondément charnel, rond et lisse, Karataïev est paradoxalement désincarné. Trouvant son salut en lui-même, il n'a pas assez de profondeur pour être plus qu'un symbole de l'échec de la fusion avec la terre et le peuple. Le prince André, contusionné sur le champ d'Austerlitz, adopte un nouveau point de vue sur la vie et les grands hommes et se libère de ses illusions. Mais ce n'est qu'après avoir rencontré Natacha Rostov, jeune fille dont la spontanéité naturelle n'a pas encore été entachée par le vernis de la mondanité, que le prince André respire enfin en plein poumon. Alors qu'au bal, accoutumé des rituels mondains, il choisit Natacha presque par hasard, je cite, « dès qu'il eut étreint sa taille fine, ondulante, frémissante, et qu'elle se mit à se mouvoir si près de lui, et que son sourire se trouva si près de son visage, il fut grisé par ses charmes, et la tête lui tourna. Il se sentit soudain vivant, à nouveau jeune. » Fin de citation. Si le prince revit lorsqu'il étreint Natacha, c'est parce que Natacha est le souffle même de la vie. Fine comme un roseau, obéissant à ses instincts plutôt qu'aux règles mondaines, alors même, je cite, qu'elle tentait d'adopter le port majestueux qui sied selon elle aux jeunes filles lors d'un bal, elle sentit, pour son bonheur, que la tête lui tournait d'excitation. Elle ne voyait plus rien, son pouls s'atteignit les 100 battements par minute, son cœur battait la chamade. Fin de citation. Son bonheur, elle le sent vibrer en elle, la parcourir tout entière, et dénuée d'artifice, elle lui donne libre cours lorsqu'elle se lance, chez son oncle, dans une danse paysanne aux premières notes d'une chanson populaire. Cette petite comtesse, je cite, « fine, pleine de grâce, élevée dans la soie et le velours », fin de citation, accède ainsi à la compréhension immédiate de ce qui est contenu dans, je cite, « chaque homme russe », fin de citation. Pourtant, lorsque Lévin, dans Anna Karénine, ira travailler au champ avec les paysans, dans l'espoir de se rapprocher de la vérité du sol, il échouera à atteindre cette harmonie spontanée et instinctive, et ce malgré la souffrance que le travail aura imposée à sa chair. Car entre Guerre et Paix et Anna Karénine, un événement est venu nuancer la philosophie de Tolstoï. Le 2 septembre 1869, alors que Tolstoï est en voyage vers le sud de la Russie, il s'arrête à Arzamas, à côté de Nijni Novgorod. Sa nuit passée à l'auberge sera l'occasion de faire l'expérience d'une crise d'angoisse qui marquera un tournant fondamental dans sa carrière littéraire, son style et sa philosophie. En 1884, l'écrivain fera vivre cette crise au héros des carnets d'un fou. Je cite « Qu'est-ce que je fuis? Où fuis-je? Je fuis quelque chose d'effrayant et je ne peux y échapper. Je suis toujours avec moi-même et je suis ce qui me tourmente. Je veux m'endormir, m'oublier et je n'y arrive pas. Je ne peux échapper à moi-même. Je suis allée me coucher, mais à peine la tête posée sur l'oreiller que je m'éveillais de frayeur. Et alors, une angoisse, le mot en russe ici est « taska », une angoisse affreuse, celle que l'on ressent quand monte la nausée, mais cette fois-ci en mon âme, me saisit. » Fin de citation. Cette crise existentielle, cette confrontation avec la mort, qu'a parfaitement rendue dans les premières minutes de son film « Une mort simple », Alexandre Kaïdanovski, cette sortie hors de soi, c'est ce que Tolstoï lui-même identifiera comme un point de non-retour, le moment fatidique qui allait tracer une frontière infranchissable entre l'œuvre d'avant et l'œuvre d'après, et permettre, outre l'introduction de personnages tels qu'Ivan Ilyitch qui cherche en vain à mourir dans la vérité, la précision de la pensée de Tolstoï, idéologiquement et esthétiquement intransigeante. Le motif de la crise, de l'angoisse, des tourments de la chair et de l'abîme qui sépare inexorablement les hommes et la nature traverse tout l'œuvre de Tolstoï, depuis ses écrits autobiographiques de jeunesse jusqu'à Résurrection, son dernier roman. S'il a dit adieu au romantisme avec les Cosaques et le personnage de Lénine, il n'en a pas pour autant cessé de mettre en scène, dans son œuvre de la maturité, des personnages en proie au doute, hamlétiens par excellence, qui, bien qu'ils désirent de tout leur être l'harmonie et la sortie du mensonge, restent résolument humains, complexes et modernes.